franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La transformation de 2000 ans d'histoire en marche de l'histoire présente bien des inconvénients, mais l'avantage, c'est que dorénavant, sans déroger à notre titre, nous pouvons creuser jusqu'à 5000, 6000, 7000 ans de profondeur. Par exemple, aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au néolithique en compagnie de Jean Guilaine. Bonjour Jean Guilaine.
Bonjour.
Auteur chez Gallimard de l'héritage néolithique, professeur au Collège de France jusqu'en 2007, professeur honoraire maintenant. Alors, on peut dire que vous êtes un historien puisque vous entrez dans la marche de l'histoire.
Oui, je pense d'ailleurs que tout archéologue, d'une certaine façon, est un historien, puisqu'il produit, avec ses éléments, avec ce qu'il a à sa disposition, un récit de type historique, en définitive.
Vous êtes quand même un fédérateur, parce que si vous n'aviez pas beaucoup d'autres disciplines, vous qui êtes d'abord archéologue, vous seriez un mutilé.
Oui, je serais un infirme, c'est-à-dire que l'archéologue ne peut pas se passer des sciences sœurs qui l'encadrent, qui lui apportent une forme de documentation à partir de laquelle il réfléchit. Par exemple, les sciences de l'environnement. S'il n'avait pas avec lui des palynologues, des anthracologues, c'est-à-dire des gens qui déterminent les charbons de bois, des gens qui déterminent les semences, les céréales... Des gens qui étudient même des choses absolument minuscules, les rongeurs, les oiseaux, eh bien toutes ces choses-là convergent vers l'archéologie pour traduire une image du paysage. Et à partir du néolithique, une image qui est un paysage qui est totalement transformé par l'action de l'homme.
Alors vous êtes aussi un conteur, évidemment vous êtes un conteur CONTEUR, parce que chez Gallimard Naguère, vous aviez publié un livre de contes sur vos corbières, mais vous êtes un conteur au sens où vous datez. Alors le néolithique, il s'arrête quand? Alors, où commence la marche de l'histoire?
Alors, en fait, il commence à partir du moment où des chasseurs-cueilleurs, au Proche-Orient notamment, se sont sédentarisés. Le point de départ, en quelque sorte, c'est la sédentarisation. On se fixe en des lieux où, à proximité, la chasse, la pêche, la cueillette peuvent permettre à la collectivité de vivre toute l'année.
Alors vous êtes un inventeur aussi, parce que c'est sans cesse une progression, le travail que vous faites sur le néolithique. On va faire la comparaison entre vos propos de 2011 et puis ceux tenus il y a un peu plus d'un demi-siècle. L'analyse spectrale de l'Occident, une émission de France Culture en 1958 par votre prédécesseur André Varagnac.
L'Europe à ce moment-là était couverte d'une forêt vierge. Cette forêt vierge avait pris la place des glaciers qui peu à peu avaient fondu à la fin de la dernière déglaciation. Lorsque viennent les premiers agriculteurs, c'est-à-dire aux environs de moins de 1500, ce sont d'abord de très paisibles agriculteurs qui, de proche en proche, se déplacent, qui ont besoin de trouver des terres facilement fertilisables. Et le meilleur procédé, c'est encore le brûlis. On fait un incendie de forêt, ma foi, comme beaucoup de bergers, hélas, le font encore. Or, c'est une civilisation dont nous savons difficilement lire les vestiges.
Alors, cernant les choses, c'est de l'Europe que parle Varagnac, c'est de l'Europe que nous allons parler essentiellement, l'Europe qui était peut-être un peu en retard dans le phénomène de sédentarisation par rapport à d'autres zones du monde.
Oui, bien sûr, puisque nos origines paysannes, d'une certaine façon, avec le néolithique, sont au Proche-Orient. Et puis, à partir de cette zone motrice, les paysannes se sont répandues alentour, et en particulier en Europe. Alors, par rapport au texte de Varagnac, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, 2500. Non, maintenant, il faut rajouter au moins 3 millénaires. À l'époque où Varagnac travaillait, il n'avait pas à sa disposition les méthodes de datation absolue dont nous disposons.
Donc en 50 ans, on a gagné 3 millénaires.
Ah oui, oui. Maintenant, en gros, la néolithisation, c'est-à-dire l'arrivée des premiers paysans en Europe centrale, en gros, c'est 5500 avant notre ère. Donc vous voyez, on a gagné 3 millénaires. Et puis Varagnac dit quelque chose qui est intéressant aussi. Il parle de paisibles agriculteurs. paisible, voire la violence a été de toutes les époques, et on en reparlera peut-être, mais il y a des massacres déjà dès cette époque-là entre agriculteurs.
Donc, oui, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants. Est-ce qu'il y a trop d'habitants d'ailleurs pendant le néolithique, vous dites, 5 ou 6 zones dans le monde, le Proche-Orient, la Chine, c'est beaucoup plus important et plus précoce que l'Europe, peut-être 100 millions d'habitants sur toute la planète à la date qu'évoque Varagnac. Est-ce que c'est ça qui provoque le développement de l'agriculture? Il y a beaucoup d'hommes à nourrir.
Il y a plusieurs théories sur l'essence de l'agriculture. On a dit essentiellement que l'homme avait été contraint de trouver une autre porte alimentaire, si je puis dire. Et donc, au départ, c'est par exemple le climat qui avait joué un rôle, l'aridité. Ça peut être aussi la démographie, en disant il y avait trop d'hommes, donc il fallait trouver, pour nourrir ces bouches de plus en plus nombreuses, il fallait trouver d'autres moyens, etc. On y croit beaucoup moins aujourd'hui. On pense que le néolithique, finalement, n'est pas une révolution de type économique et contrainte, mais au contraire, une révolution culturelle, c'est-à-dire une évolution psychique de l'homme qui, en quelque sorte, par sa curiosité, essaie d'ouvrir de nouvelles portes, construit de la culture d'une certaine façon.
Alors, votre livre sur l'héritage néolithique porte trois noms en exergue. On va d'abord parler des deux premiers, Caïn et Abel. Alors, Caïn symbolise l'agriculture, mais ce Caïn, il est bien représenté justement dans la Bible comme quelqu'un qui est prisonnier de l'espace, qu'il doit cultiver encore et toujours, sans pouvoir la négliger. La domestication, c'est l'emprisonnement.
Oui, bien sûr, d'une certaine façon, depuis la faute, l'homme étant obligé de travailler à sueur de son front, l'agriculture a été un des moyens, n'est-ce pas, pour survivre. Et donc Caïn est le premier agriculteur, c'est-à-dire qu'il... Il cultive le sol, il s'acharne, il s'échine à travailler le sol et il fait des offrandes à Dieu. Mais ces offrandes ne sont pas très prisées. Et par contre, son frère Abel, qui lui est le pasteur, n'est-ce pas, fait également des sacrifices à Dieu. Mais lui, il sacrifie des bêtes. Autrement dit, il fait couler le sang. Et c'est, en quelque sorte, ces sacrifices sont beaucoup plus prisés dans la mesure où il a ce côté sacrificateur, n'est-ce pas ? Et ce qui engendre la jalousie entre les deux frères, la jalousie de Caïn, essentiellement, et Caïn se débarrasse d'Abel. Mais derrière cette image, ce mythe, on peut penser déjà aux oppositions qui surviennent entre les sédentaires, les agriculteurs, et puis ceux qui nomadisent en périphérie et qui, évidemment, peuvent, avec les troupeaux, abîmer les cultures. Et donc, cette guerre qui a pu, cette opposition qui a pu exister entre agriculteurs et pasteurs.
Alors, Caïn, Abel, et puis le troisième homme qui figure sur la jaquette de votre livre que publie Gallimard, c'est Ötzi. Alors, Ötzi. Alors, un couple de randonneurs, en 1991, découvre à la frontière austro-italienne, en altitude, dans le glacier de Lozal, un homme qu'on va appeler Ötzi. À mesure qu'on décage un peu brutalement sa momie qui est dans une gangue de glace, d'autres découvertes suivent. France Inter, 92.
Il y a l'actualité qui court et qui galope, et puis il y a de temps en temps une information qui nous permet de relativiser un peu les aléas de l'information quotidienne, et en voici une justement, c'est un objet qui l'apporte, cette information, un fragment d'arc long de 35 cm, découvert il y a quelques jours à la frontière italo-autrichienne. Cet arc, il est vieux, vous m'arrêtez si je me trompe, Yves Coppens, de 5500 ans.
Oui, oui.
C'est l'arc du mystérieux homme de Similone, découvert congelé dans un glacier l'année dernière. Cet arc, ce petit bout de bois, c'est une mine de renseignements, j'imagine, pour vous.
Oui, bien sûr, c'est une information importante, d'autant plus que le bois ne se conserve pas souvent.
Restez enfermé dans un bloc de glace et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois.
Ce monsieur de 5500 ans a d'abord probablement été momifié par un vent sec et ensuite seulement le glacier l'a recouvert.
Le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques.
Et aujourd'hui, 5500 ans après, on le retrouve là, avec ses vêtements, son sac, ses armes, ses outils, mais en plus son alimentation. Il avait des prunes sauvages séchées dans son petit sac, et puis il avait des céréales, et il avait de la viande.
Je lui ai tout dit ! Quoi, vous avez fait ça ? Je lui ai tout dit !
Alors, comme notre réalisateur est facétieux et qu'on n'entend que des voix qu'on aime bien, ce midi, Coppens, Jean-Marc Four, vous, Jean Guilaine, il a ajouté celle de Louis de Funès. Alors, soyons sérieux, Jean Guilaine. Alors, cet homme, il est extraordinaire, parce qu'on sait ce qu'il porte, on sait ce qu'il mange avec le sac, on sait de quoi il est armé avec cet arc.
Oui, 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 mais il est armé, mais curieusement, cet arc n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de quoi fixer la corde à chacune de ses extrémités. Il a un carquois avec des flèches, mais sur 14 flèches, il y en a 12 qui ne marchent pas, qui sont inachevées. Donc, il y a un problème. Alors, on pense qu'il est mort de froid là-haut, et puis quelque temps après, lorsque les Italiens le récupèrent, puisqu'il a été l'objet d'une contestation sur sa position, en quelque sorte, dans l'espace, les Italiens le récupèrent auprès des Autrichiens, et on s'aperçoit en fait qu'il a été tué.
Bon, alors là, Jacques Segal veut illustrer encore à sa façon la mort violente, donc, d'Ozzy. Bon, ça, c'est le mémorable film d'Alain Chabat, vous savez. Ouais. Bon, mais continuez, sérieux. Soyons sérieux, Jean-Guilain.
Bon, donc, alors, bon, voyez, au début, on pense qu'il est mort de froid. Ensuite, on s'aperçoit qu'il a reçu une flèche, un impact mortel dans l'épaule. Donc, il n'est pas mort de froid, vous voyez, la violence s'installe d'une certaine façon. Il a été tué. À quelque temps de là, on observe que sur deux de ses flèches, sur sa cape et sur son petit poignard à lame de silex, il y a du sang. Ce sang n'est pas le sien. Et c'est le sang de quatre personnes différentes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est blanc-blanc. Autrement dit, il s'est probablement battu. C'est pas bon. Et puis, alors, la dernière hypothèse actuellement, c'est que, constatant que ses flèches ne marchent pas, que son arc ne marche pas, il a, comme le disait Coppens il y a un instant, probablement été momifié. Et puis, peut-être qu'il y a du temps qui s'est installé entre le moment de sa mort et le moment où les siens sont allés l'enterrer sur la montagne. Et finalement, ces flèches qui ne marchent pas et cet arc qui ne marche pas non plus, ce sont peut-être des simulacres qu'on a mis dans la tombe. On enterre un guerrier avec des instruments qui ne marchent pas, mais le rite est soft.
Oui, c'est comme ça qu'on voit que votre travail consiste à inventer des hypothèses.
Mais évidemment.
Sans cesse, le travail d'inventeur. Mais celui qui décrit, il voit des vêtements qui sont là sur le corps. Et ces vêtements témoignent d'échanges ? C'est des vêtements faits de manière autochtone ou...
Probablement de manière autochtone, puisque nous avons dans la même région des statues menhirs, c'est-à-dire une sorte de statue de pierre qui constitue la plus ancienne statuaire européenne. Et nous avons des gens qui portent des tuniques, et ces tuniques ressemblent tout à fait à celles d'Ozzy, c'est-à-dire à des sortes de lanières cousues à la verticale. Voyez. Donc, c'est...
Pas d'objets qui viennent de loin ?
Pas d'objets qui viennent de loin ou qui viennent d'un circuit relativement proche. Ce qui ne veut pas dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'échange d'objets sur de très grands espaces. Et précisément, le néolithique est une période où l'on échange beaucoup. Nous voyons par exemple des haches qui ont été fabriquées à partir de matériaux extraits du Piémont et que nous retrouvons en Bretagne, que nous retrouvons jusqu'en Espagne. Nous avons des silex comme le fameux silex du Grand Pressigny dans la région de Tours qui circulent pratiquement dans toute l'Europe occidentale et jusqu'en Hollande. Donc vous voyez, le néolithique n'est pas une période où les gens vivent repliés sur eux-mêmes, en autarcie, mais où précisément les échanges font partie de la construction des rapports sociaux.
Mais ce qu'il y a dans son sac, des champignons peut-être qui ont une vertu médicamenteuse, sans doute, ce sont des produits de la terre, des vallées, des Alpes à proximité immédiate.
Oui, de la région, oui. Ouais.
Du blé.
Oui, du blé, ce que l'on cultivait à l'époque, c'est-à-dire du blé, de l'orge, et puis des fruits que l'on peut cueillir, bien entendu.
Il est incorrigible, notre réalisateur. Vous savez que nous sommes quand même des gens de la pensée magique, comme nos ancêtres du néolithique, et la découverte d'Ozzy provoque un cortège de fantasmes. Il faut donc, paraît-il, passer ce son. Nous sommes en 2010, le journal télévisé de la principale chaîne française.
La découverte il y a 15 ans d'un homme de glace porterait-elle une malédiction ? 8 personnes l'ayant approché sont en effet décédées. Récit de Christophe Pallet.
On ne dérange pas un guerrier qui dort. En sortant de la glace, cette momie de 5300 ans, personne n'avait imaginé réveiller sa colère. A commencer par le randonneur qui l'avait découvert. En retournant sur place l'an dernier, il a trouvé la mort dans une crevasse. Le secouriste venu à sa rescousse a lui été terrassé le lendemain par une crise cardiaque. Même punition pour le chef de la mission scientifique et son guide qui l'avait déplacé. Le premier est mort dans un accident de voiture en allant donner une conférence sur la momie. Le second a été emporté par une avalanche. Pas de reconnaissance non plus pour le premier archéologue à l'avoir examiné. Il est mort d'une sclérose en plaques. Quant à son collègue biologiste qui avait trouvé une méthode pour le protéger des bactéries, il est décédé lors d'une opération à cœur ouvert. Sans parler du caméraman qui a filmé ces images et qui a succombé à une tumeur au cerveau, ou de cet archéologue australien qui s'apprêtait à publier des travaux sur Otzi et qui a été retrouvé mort à son domicile il y a 2 semaines.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Guilaine qui publie Caïn, Abel, et nous en sommes à Otzi, l'homme des Alpes néolithiques, moins 3200 avant notre ère. Moi, ce qui m'intéresse, Jean-Guilaine, c'est pas tellement le fait que les découvreurs soient morts peut-être prématurément, mais c'est que la lignée d'Otzi s'éteigne.
Oui, en fait, ça c'est valable également pour d'autres dépouilles néolithiques étudiées en Europe centrale. Notre problème archéologique est le suivant. Ces paysans qui sont partis du Proche-Orient et qui ont diffusé l'agriculture en Europe, mais lentement évidemment, au fil des générations. Alors, est-ce que vraiment on peut retrouver des traces des migrants originaux, d'une certaine façon, ou est-ce que finalement, plutôt que de voir migrer des populations, ça ne sont pas des indigènes, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs européens qui auraient adopté les caractères de l'agriculture? Il y a là un vieux débat de l'archéologie. Alors nous pensons que l'ADN, par exemple les prélèvements d'ADN, peuvent nous aider à démontrer si les signatures de ces populations sont bien des signatures externes ou des signatures autochtones. Alors, en ce qui concerne les premiers paysans de l'Europe centrale dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les prédécesseurs d'Otzi, autour de 5500-5000 avant notre ère, on a fait des analyses et on s'est aperçu que les signatures ADN de ces populations-là ne correspondaient pas à celles d'Orient. Donc on a dit, ce sont des néolithiques, mais ce sont des paysans dont les ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs locaux qui se sont convertis à l'agriculture. Et alors, il y a une théorie qui voudrait évidemment que, en quelque sorte, la cartographie génétique de l'Europe néolithique aurait directement commandé notre propre cartographie actuelle. Or, on s'aperçoit que de ces premiers paysans, nous n'avons plus de traces. Et pour revenir à Otzi, la lignée également d'Otzi s'est perdue. Ça veut dire évidemment que les divers bouleversements historiques ont fait qu'à divers moments, il y a des lignées qui ont pu péricliter et d'autres, évidemment, qui, après de certains goulots d'étranglement, ont pu s'étaler. L'histoire génétique de l'Europe est certainement très compliquée.
Alors, Otzi n'a droit qu'à des funérailles peut-être tardives, pas de grandes sépultures, pas de lignées derrière lui, pas de culte des aïeux autour de lui. Deuxième volet de cette exploration rapide de l'Europe néolithique avec vous, Jean Guilaine, les monuments funéraires, le souvenir des aïeux. Alors, comme nous posons quantité de questions enfantines, autant laisser parler directement les enfants, ceux de Carnac.
On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Un riche, une grosse, un pauvre, une petite. Mais la légende dit aussi que sa cornélie, poursuivie jusqu'au bord de la mer par les soldats païens, ne trouvant plus de vaisseau pour s'enfuir, se retourna et changea tous les soldats en pierre.
Quel âge as-tu, toi ?
10 ans.
Et toi ?
10 ans.
Il y a longtemps que vous faites les guides ici ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a appris ?
Avec une vieille dame.
Avec une vieille dame ? Vous comprenez un petit peu ce que vous dites ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ici, là ?
Ça, c'est des menhirs.
Et qu'est-ce que c'est des menhirs ?
C'est des pierres.
Qu'est-ce qui les a apportées ici, ces pierres ?
Il paraît que c'est la mer.
Il est difficile, aujourd'hui encore, d'avoir une opinion définitive sur ce que c'était que les menhirs. Les menhirs étaient peut-être, dans l'esprit de ces gens, des réceptacles d'âmes des morts, toutes prêtes à se réincarner. C'est une hypothèse. Nous sommes peut-être plus affirmatifs en ce qui concerne les dolmens. Là, nous savons que ce sont des maisons des morts, des sortes d'arceaux de consécration par lesquels on devait passer pour être initié à un culte en partie secret.
Papa, menhir, maman, dolmen, sur toute la terre, on s'est promené.
Heureusement qu'entre les cours donnés par Maman Dolmen, les paroles de la chanson écrite par Roda Gil, il y a, pas Papa Menhir, mais il y a André Varagnac qui, il y a de cela un demi-siècle, livrait un peu de vérité.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, sur les menhirs, on s'interroge évidemment sur les menhirs, d'autant que beaucoup de menhirs ont une forme anthropomorphe, n'est-ce pas ? Avec une partie supérieure céphalique en quelque sorte. Donc il y a souvent derrière le menhir la silhouette d'un personnage, peut-être le substitut d'un personnage. Mais en Bretagne, vous avez certes de très grandes stèles qui ont été élevées avant les dolmens d'ailleurs, dès le milieu du 5e millénaire, aux alentours de 4500 avant notre ère, qui étaient ornés, qui étaient décorés de motifs très simples la plupart du temps. Alors, qu'étaient ces stèles ? Ça pouvait être, évidemment, peut-être des ancêtres, des espaïs, ça pouvait renvoyer à des mythes, à des liens qui pouvaient unir les populations à la mer, dans le cadre, évidemment, de leurs propres récits.
Ce qui vous intéresse le plus sont les diasporas, les échanges. Je reviens à une question relative à ce sujet. Si on a fait les alignements de Carnac avec des perspectives, avec la volonté de provoquer des effets d'optique, c'est parce que des gens nombreux venaient d'assez loin par le golfe du Morbihan.
Oui, ce que je crois, c'est que des monuments comme Carnac, on pourrait en dire de même de Stonehenge en Angleterre, des Bury, c'est-à-dire des fameux henges britanniques, ces cercles, n'est-ce pas, avec de menhirs, c'était certainement des lieux d'agrégation, des lieux où les gens se retrouvaient à certains moments. J'ose avancer le terme de pèlerinage, probablement, pour indiquer ces regroupements de population à certains moments de l'année. Et dans ces regroupements, il y avait probablement derrière du social, c'est-à-dire qu'on en profitait certainement pour nouer des alliances, par exemple. Et il devait y avoir aussi du rituel, bien entendu, qui conforte toujours le social.
Jean Guilaine, l'archéologie avance à grands pas. On l'a découvert dans le Morbihan, il y a de cela peu d'années, en 2006, des dizaines de menhirs couchés à Belze. Heureusement que les Bretons, de temps en temps, relèvent les menhirs.
La Bretagne a renoué hier avec une tradition plutôt spectaculaire à Plabennec, dans le Nord Finistère. Devant 10 000 spectateurs et pour la première fois depuis plusieurs dizaines de siècles, un menhir de 19 tonnes datant du néolithique a été relevé, redressé à main d'homme. 450 personnes tirant sur une corde et s'aidant de la voix ont réussi à redresser ce menhir haut de 7,30 m. Philippe Périlloux de Radio France Bretagne Ouest a interrogé quelques spectateurs bretons qui assistaient à ce spectacle vraiment étonnant.
Alors Plabennec, août 85, mais pourquoi sont-ils couchés ces menhirs ? On veut redresser plus tard, nous, pour des motifs touristiques.
Pendant longtemps, on a pensé que c'est la nature qui avait, évidemment, l'érosion qui avait entraîné, en quelque sorte, la destruction progressive de ces menhirs. On ne peut pas l'écarter, bien entendu, cette hypothèse. Mais on pense aussi que souvent, les menhirs ont été abattus à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment, ils pouvaient représenter, au moment où ils étaient en activité, si l'on peut dire, un certain ordre social, correspondre à certains récits, à certains mythes, etc. Et puis, les organisations sociales, au cours du temps ayant changé, ils perdaient toute signification, ils pouvaient être abattus et parfois même récupérés pour faire des constructions diverses.
Mais vous voulez dire qu'il y a eu peut-être, au néolithique, des oui. telles qu'on a pratiquer ce qu'on a appelé plus tard l'iconoclasme,
absolument,
la lutte contre les images.
Oui, mais ça, nous en avons de la démonstration, en particulier, notamment, à partir de stèles anthropomorphes, de statues menhirs, qui étaient dressées en Suisse, par exemple, ou en Italie du Nord. Et ces stèles représentaient des hommes et des femmes, et puis à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, représentaient probablement des ancêtres, des personnages charismatiques qui avaient été statufiés. Et à un moment donné, on voit que ces stèles sont abattues et que leurs morceaux servent à construire des tombes tout à fait voisines. Donc, vous voyez, la récupération des matériaux à partir d'une sorte de personnage statufié et que l'on a mis à terre, que l'on a cassé parce que il ne représentait plus rien ou parce qu'il représentait un certain ordre social, en quelque sorte, et qu'on n'en voulait plus.
Ordre social souvent menacé à cause du surpeuplement, à cause des conflits d'intérêts, à cause de la montée des inégalités. C'est ça quand même le rythme de pulsation essentiel du néolithique.
Et de la compétition. Il faut voir que ces sociétés étaient des sociétés de compétition et que la violence, évidemment, était le corollaire de cette situation. On voulait briller. on voulait briller et donc on voulait monter dans la société. Il y avait déjà des dominants et des dominés. Ce qui explique évidemment à la fois cette violence et cette contestation des idoles.
Pardonnez-nous quand même une dernière représentation de cette montée des conflits qui caractérisent votre époque préférée.
La famille de la lignée de Gaïa était devenue la plus puissante, la plus respectée. Ainsi, la richesse peut devenir une forme de violence.
Jacques Malaterre, 2007. Oui, alors peut-être la représentation de la violence a-t-elle un sens là dans ce film, mais qu'est-ce que c'est que ce langage ?
Ah ben, le langage, nous l'ignorons complètement. Alors, dans le cas de Malaterre, en fait, dans le Sacre de l'Homme, dont vous venez de passer un extrait, en fait, il y a quatre étapes. On part des débuts du néolithique et on arrive jusqu'à la cité sumérienne. Alors, comment on a travaillé, en fait, là, dans le film ? On a repris des textes, des langages sumériens, et puis on les a simplifiés, plus on a remonté dans le temps. Autrement dit, au départ, la base pour les parties terminales du film est correcte, et puis après, le reste est imaginé, mais à partir de racines ou d'expressions qui ont pu être données au néolithique. Mais ça, c'est évidemment de la pure spéculation.
Inventeur infatigable, au sens noble du mot invention, défricheur, archéologue, à quoi allez-vous heurter ? Qu'est-ce qui pourra ne jamais être connu ?
Ben, moi, évidemment, le langage ou l'écriture, ça, ce sont nos crèves-cœurs, nous, archéologues. Ceci dit, nous nous satisfaisons pleinement de ce que nous avons, c'est-à-dire des vestiges matériels à partir desquels on peut travailler, à partir desquels on peut émettre des hypothèses, à partir desquels, avec des modèles puisés dans l'anthropologie, par exemple, nous pouvons faire avancer la réflexion. Et cela suffit à notre bonheur.
Et c'est comme ça que vous fouillez, un mois par an, à Chypre ?
À Chypre, oui, où j'essaie de retrouver les traces des premiers paysans et puis de leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs pour mieux mesurer d'une certaine façon comment l'homme, à un moment donné, au Proche-Orient, est passé du stade de la chasse, de la pêche, de la cueillette, au stade de l'agriculture, d'élevage, c'est-à-dire le mode des paysans qui est celui de nos grands-parents. Au fond.
J'espère que les contemporains à Chypre qui entourent vos lieux de fouilles, les sépultures que vous observez ne sont pas comme ces contemporains de l'Aveyron.
Nous nous trouvons devant la nécropole préhistorique de la Médocine qui remonte à l'époque néolithique, c'est-à-dire dont le gisement date de 5000 ans. Malheureusement, des vandales n'hésitent pas à pénétrer dans la caverne pour aller faire des fouilles clandestines. Ici, vous avez un crâne féminin pétrifié. Nous en avons découvert plusieurs dizaines. Malheureusement, il y en a au moins 7 ou 8 crânes qui ont été volés. Certains vandales n'ont pas hésité à utiliser la barre à mine ou même l'explosif pour essayer de la récupérer. En bordure du lac supérieur de la Médocine, nous avions une colonne stalagmitique en formation. Malheureusement, elle a été détruite par des vandales.
C'est ici que se termine la visite.
Merci.
C'est fini.
Oui, parce que nous sommes vraiment découragés. C'est à se demander, c'est la dernière phrase de votre livre, si les contemporains sont dignes du néolithique.
Ben, pour l'instant, je ne le crois pas. En fait, l'histoire n'a pas respecté le message du néolithique.
Alors, l'héritage néolithique, Cain, Abel, Hotziste, un livre chez Gallimard, de Jean Guilaine, l'émission préparée par Jacques Sigal, Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier, avec à la technique Gilles Gaillard et Yann Bouillot. Lundi, le Japon, l'État et l'Empereur avec François Massé.